Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec Criollo que nous partons ce soir. Un trio atypique aux couleurs de l'Argentine, c'est Criollo. Entre composition et arrangement, les trois compères nous amènent dans leur univers. Un univers entre l'héritage d'un passé qu'on ne peut oublier et les promesses d'un futur qu'on ne peut éviter. Des sonorités d'ici et d'ailleurs qui nous font rêver, voyager. Joseph, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Résonance.
Merci, merci de m'accueillir.
Alors, on vous retrouve ce soir pour parler de votre musique, notamment de votre ensemble Criollo, dont vous êtes le fondateur. Un trio composé de vous à la guitare, mais aussi à la composition, à l'arrangement. À vos côtés, on retrouve Nicolas Marie au basson et Nicolas Canavaggia à la contrebasse. Une musique venue de loin, d'Argentine, confrontée à de multiples influences. Comment s'est passé ce coup de foudre pour cette musique ?
Et ça, c'est une histoire qui commence à être ancienne. J'avais 13 ans et mon père dirigeait une chorale dans le village où j'habitais, dans le Beaujolais, et il était prof de clarinette aussi à l'école de musique de Villeurbanne. Et dans cette école de musique, il y a une section, une classe de musique andine qui était à l'époque dirigée par Jean-Michel Kerr, soliste de Los Chacos dans les années 70-80. Et donc mon père a invité son collègue et toute sa classe de musique andine pour accompagner son projet choral. Ils ont fait un projet ensemble et comme c'était à domicile, il m'a proposé de jouer de la guitare dedans, que ça faisait déjà 6 ans que je faisais de la guitare. Et donc voilà, j'ai rencontré la classe de musique andine, les musiques argentines andines à ce moment-là. J'ai rencontré Jean-Michel Kerr et puis toute l'ambiance qui allait avec le personnage, la musique. Et voilà, le coup de foudre, il a été à ce moment-là. Et puis dès l'année suivante, j'ai commencé mes études avec lui et puis j'ai pas arrêté.
Alors vous faites de la guitare ?
Oui, de la guitare, du charango. Donc dans cette classe, on apprenait une bonne partie des instruments utilisés dans les Andes et en Argentine. Donc j'ai appris la guitare, le charango, notre instrument à cordes, les flûtes des Andes, la quena, la flûte de pan qu'on appelle siku, et puis le bombo, le tambour argentin, qui est taillé dans un tronc évidé avec deux peaux de chèvre, et voilà. Et puis le chant, bien sûr.
D'accord, donc vous êtes multi-instrumentiste. Est-ce qu'il y a un instrument qui vous a marqué parmi tous ces instruments que vous avez pu pratiquer, que vous pratiquez ?
Le bombo. Le bombo, c'est quand même un instrument assez incroyable qui me relie personnellement beaucoup avec la terre, et c'est un son très très profond, et en jouer me procure beaucoup de sensations, beaucoup de bien-être, avec un peu entrer avec les forces telluriques, sans être trop pompeux. Mais après, voilà, mon instrument de prédilection et que j'étudie depuis plus longtemps, c'était la guitare. Donc c'est vrai que la guitare a aussi son importance, et dans le trio, je joue essentiellement de la guitare et un petit peu de bombo, un petit peu de charango. Les flûtes, j'ai pas vraiment la place pour les utiliser, parce que dès que je me mets aux flûtes, y a plus de guitare et il y a plus de cordes, donc il y a plus d'harmonie, et tout de suite ça fait un petit peu nu, quoi. Ça fait un peu dépouillé comme musique. Donc si on a l'opportunité d'avoir des guests ou voilà des invités avec qui partager ça et qui pourraient prendre le rôle de la guitare. Mais c'est vrai que de la musique argentine sans guitare, ça marche moins bien.
Oui. Et lorsque vous avez découvert ces musiques populaires d'Argentine, par rapport à votre formation classique, est-ce que vous avez été un peu étonné de tout ça, voilà, de ce langage, de ce nouveau langage?
Alors, j'étais pas très étonné parce que, enfin, j'étais fasciné par cette nouvelle musique. Hein, à 13 ans, quand on découvre une musique qu'on n'avait jamais entendue auparavant, c'était tout à fait incroyable. Et maintenant, ça l'est toujours autant parce qu'il y a toujours du répertoire qu'on connaît pas. Je m'émerveille toujours de choses simples, de sambas, de chacareras. Mais j'étais pas très étonné de la manière. Des modes de jeu parce que j'ai pas de culture classique, j'ai pas eu un parcours très classique. J'ai eu plusieurs profs de guitare dans des écoles où j'ai eu la veine de tomber sur des professeurs qui étaient très éclectiques dans leur pratique, et j'ai commencé en voulant chanter Renaud, moi, donc j'étais plutôt porté sur la chanson française. Donc j'ai appris assez vite à m'accompagner à la guitare avec des harmonies, avec les accords, et puis petit à petit à m'accompagner en faisant des accords certes, mais en faisant de manière caricaturale, je veux dire, en arrêtant de faire gling gling et en développant un jeu guitaristique un petit peu plus poussé sur l'accompagnement, avec des jeux de basse en plus des accords, avec voilà, faire un peu des mélodies en même temps qu'on fait les accords et qu'on fait des jeux de basse, voilà, un petit peu pousser le mode d'accompagnement. Et puis après j'ai découvert San Severino, après du coup ça m'a aiguillé un peu sur le jazz manouche. Du coup voilà, quand j'étais ado, j'ai fait toutes ces musiques. Pas mal de musique des Balkans aussi. Donc c'est vrai que j'étais plutôt porté sur la musique traditionnelle, Balkans, du coup sud-américaine à ce moment-là, et puis sur la chanson française. Donc c'est vrai que les rythmiques étaient pas les mêmes, mais le mode d'accompagnement, utiliser les accords, ça c'était un langage que je connaissais déjà. Et puis je faisais un peu de classique aussi pour voilà, mais j'avais pas une formation purement classique, donc j'ai pas été complètement dépaysé.
Alors la musique populaire d'Argentine est une musique très riche avec plusieurs styles. Qu'est-ce qui la caractérise?
Il y a déjà deux grandes familles, c'est-à-dire qu'il y a le tango, la milonga qui est une musique de la ville, qui est de Buenos Aires, et puis sur le reste de la moitié nord de l'Argentine, il y a toute la musique des provinces. Et alors, en fonction des provinces, il y a un style de musique. Il y a des styles qui se rapprochent selon certaines provinces, ils ont des styles en commun. Et puis il y a des provinces qui ont un style bien à elles et qui ne se retrouvent pas du tout. Par exemple, au nord-est, on a la région du chamamé, donc dans les provinces de Corrientes, Misiones, Santa Fe. Et donc le chamamé, c'est un style qui s'adresse essentiellement aux guitares et surtout à l'accordéon. Le maître, l'instrument maître du chamamé, c'est l'accordéon. Et puis à côté de ça, au nord-ouest, dans les régions de Tucumán, Salta, Jujuy, on va avoir une influence beaucoup plus montagnarde, beaucoup plus andine. Donc on va avoir des sambas qui s'écrivent avec un Z, qui sont des danses de couple qu'on danse avec un foulard. Et on va avoir des chacareras beaucoup plus dans la région de Santiago del Estero, donc un peu plus au centre de la moitié nord. Après on retrouve des chacareras aussi à Salta, mais voilà, ça fait partie des porosités qu'on peut trouver entre les régions, entre les provinces. Mais c'est vrai qu'il y a certaines provinces qui ont un folklore bien à eux, bien à elles, et chaque province, on pourrait y passer une vie, parce qu'il y a vraiment des cultures et des répertoires très variés dans chaque province.
Et quand vous allez en Argentine jouer avec vos collègues, est-ce que vous ressentez une ambiance un peu différente que quand vous jouez en France, par exemple ?
Ah oui, bien sûr, ça a rien à voir. Déjà en France, quand je joue avec mes collègues, alors ça dépend avec quel collègue je joue, mais en ce qui concerne Criollando, par exemple, la musique argentine, c'est pas du tout la spécialité des deux musiciens avec qui je joue. Mais c'est aussi pour ça que je joue avec eux. C'est principalement parce que ils apportent autre chose. Ils apportent un métissage. Criollando, ça veut dire en métissant. Alors, j'aurais mauvaise mine à faire que du folklore pur en apportant rien d'autre. Donc là, l'idée de travailler avec des gens dont c'est pas la spécialité, bah c'est ça qui fait tout le charme et toute l'importance, tout l'intérêt du projet Criollando, c'est d'apporter d'autres choses. Donc oui, quand je suis en Argentine, bah, je joue avec des gens dont c'est une habitude, ils savent faire, donc on peut partager une manière de voir et une manière de penser cette musique qui est facile d'accès, qui est facile à jouer pour les gens avec qui je joue. Et puis bah, quand je joue avec Criollando ou avec des gens en France, eh ben, j'ai plus un rôle de transmetteur, pas de prof, mais j'amène moi la partie plus traditionnelle avec les rythmiques, et puis ben, j'écris les partitions et on travaille aussi ensemble. J'amène une trame, disons, avec les partitions, et puis ben, derrière on apporte un peu d'autres choses. Disons que actuellement le format de Criollando avec le basson et la contrebasse, on est sur un mélange de folklore argentin, de musique populaire argentine, avec une forme de musique de chambre, on va dire. Le basson amène un côté musique de chambre, et la contrebasse, qui joue à la fois Anpizz et à la fois Arco, bah, varie, nous transporte à la fois d'un côté un peu plus jazz, plus accompagnement chanson, et puis avec l'archet on va aller toucher plus à un format un petit peu plus soit Brassens, ce type Les Passantes, soit carrément dans un petit projet musique de chambre un petit peu plus classique dans l'esthétique, quoi.
Oui, en revenant sur le basson, qu'est-ce qui vous a motivé à l'intégrer dans votre groupe? Parce qu'on sait que c'est un instrument quand même de niche, qui est très peu connu, quand même, à part en orchestre.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Y a deux raisons. La première, c'est que je cherchais, en fait, je fais une petite digression, puis j'arrive à la réponse. Criollando, ça a commencé en duo avec une chanteuse. Ensuite, qui faisait aussi guitare, bombo et du violon. Et ensuite, j'ai continué, quand le duo s'est arrêté, j'ai continué avec un accordéon, une accordéoniste, et puis Nicolas qui est arrivé à la contrebasse. Et quand on a arrêté de travailler avec l'accordéon, eh ben, j'ai cherché un instrument qui puisse être déjà complètement différent pour pas continuer dans la même veine, mais essayer de trouver une autre couleur. Et j'ai cherché un instrument qui puisse faire le lien avec ma voix et qui puisse potentiellement faire une deuxième voix en même temps que je chante, mais qu'on puisse penser plus ou moins qu'il y a deux personnes qui chantent. Donc j'ai hésité longtemps entre du violoncelle, puisqu'on dit que le violoncelle, c'est la voix humaine, et j'ai cherché donc un instrument qui puisse être ténor comme moi pour pouvoir faire une deuxième voix. Et puis aussi parce que ben Nicolas Marie c'était un copain, on a fait nos études ensemble à l'ENM de Villeurbanne, et puis on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de jouer ensemble. On a fait nos études ensemble, donc on était chacun dans une salle à bosser, et puis on se retrouvait pour la pause clope et la pause café, et puis surtout on a bu des canons ensemble quand on était en études, quand on était étudiant, et voilà, ben, c'était l'occasion de pouvoir enfin faire de la musique ensemble. Et voilà. Et donc le basson correspondait vraiment à cette, parce que contrairement à son nom, le basson, certes, il descend bas, mais c'est pas un instrument basse, c'est un instrument ténor. Et ben ça se rapproche vachement de la voix humaine. Et avec ma voix, bah, ça collait bien. Voilà pourquoi j'ai choisi le basson. Et puis aussi parce que bah précisément comme vous le disiez, le basson est un instrument de niche qu'on n'entend pas beaucoup dans d'autres musiques. Et à ma connaissance, pour écouter quand même beaucoup de musique populaire argentine, j'ai jamais entendu un seul groupe incluant du basson dans la musique argentine. Et donc, bah, je suis ravi de l'avoir fait parce que je suis très content du résultat.
Un apport nouveau dans la musique d'Argentine.
Ben ouais, disons que quand on s'appelle Criollando, on essaye des choses.
C'est ça.
Ouais.
Exactement. et pour vous dans Résonance sur Radio G avec l'ensemble Clio Gendo. Alors vous composez, vous écrivez votre musique et aussi parfois vous faites des reprises. Quand vous composez, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui nourrit votre création, votre créativité?
Oh, mais il y a plein de choses. Quand il y a des choses un petit peu fortes qui arrivent dans la vie, c'est souvent inspirant. Après, il y a aussi un format de composition un petit peu sous contrainte que j'aime bien. C'est-à-dire que quand il faut, par exemple, pour enregistrer l'album, j'avais des compositions qui avaient été inspirées plutôt par des éléments, des événements forts dans ma vie, soit des décès, soit des moments puissants, des moments forts, des moments beaux, des paysages aussi, des paysages très beaux. Là, l'album est principalement axé sur le thème de l'eau sous toutes ses formes. Donc, les paysages ont été assez inspirants. Je pense à Al Salar, le grand désert de sel dans le nord de l'Argentine, à Purmamarca. Et puis sinon, quand j'avais... J'ai plus tout en tête, mais 5-6 compos et qu'il en fallait un petit peu plus dans l'album. Et après on cherche un petit peu un équilibre sur des morceaux doux, des morceaux plus pêchus et des morceaux rapides, des morceaux lents. Et donc au niveau de l'équilibre, ensuite ça crée des contraintes et il nous manque tel ou tel morceau plutôt pêchu, plutôt lent, j'ai plutôt composé sur tel ou tel thème. Et puis ensuite, il y a la contrainte de la nomenclature. Donc j'écris pour basson, j'écris pour contrebasse. Tiens, là, il faudrait que ce soit plutôt pizz, plutôt arco. Moi à la guitare, ou plutôt moi au charango, ou plutôt moi au bombo. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je chante? Est-ce que je chante pas? Et puis, dans l'album, on a des invités. Donc il fallait aussi composer pour ces invités. Tout ça fait que j'avais des contraintes pour pouvoir composer.
Alors en revenant sur l'album, votre album s'appelle Ilo. Il fait référence à l'île, c'est ça?
Non, ça veut dire le fil. Ça fait référence au fil de l'eau.
D'accord.
Et à la base, c'est le nom d'un morceau dans l'album qui s'appelle Ilo. Et toute base, c'était le nom d'un morceau et ça faisait plutôt référence au fil du funambule, pardon. C'est un morceau que j'avais écrit plus en hommage au cirque et notamment à ma grand-mère qui aimait beaucoup le cirque. Et donc c'était plus un morceau tout en équilibre et en... Comment on dirait ça? En suspension. C'était vraiment le funambule sur son fil. Et puis, intégré dans le projet de l'album Ilo, et sur ce travail autour de l'eau et des nouvelles compositions autour de l'eau, ça a permis de faire le lien entre le fil de l'eau et toutes les autres compositions, le lac, le torrent, qu'est-ce qu'on a d'autre? La source, la rivière, enfin le fleuve, et puis le ruisseau. Voilà tous les thèmes que j'ai abordés dans les nouvelles compositions.
Donc un album riche en émotions, en couleurs sonores. En quelques adjectifs, comment vous le décrivez? En trois adjectifs.
Il est extrêmement varié, cet album. Il est... Trois adjectifs, c'est pas facile.
Non. Déjà, on en a un, c'est déjà pas mal.
Déjà parce que c'est plutôt aux auditeurs d'avoir des adjectifs. Moi, j'apprécie de l'écouter, mais j'ai un point de vue beaucoup plus dans la construction et dans la fabrication.
C'est aussi intéressant.
Il est. Bah, je sais pas si c'est un adjectif, mais il est abouti. C'est un album qui est très abouti. Ça a été un travail de longue haleine avec beaucoup de semaines de résidence, de travail de composition en amont que moi j'ai fait vraiment tout seul avant. Et puis donc il est varié, il est abouti et il est coloré.
D'accord, très bien.
Matisse, je sais pas, ouais, il est métissé, mais il est
Métissé,
métissé dans les couleurs. Parce que, en fait, sur 11 titres, il y a un solo rango, il y a un duo guitare, voix, contrebasse, il y a du trio, évidemment, guitare, basson, contrebasse. Il y a une chanson aux guitares seules avec trois voix, sans les instruments des deux comparses. Il y a de la flûte traversière avec une invitée et de la quena. Il y a du piano, deux titres avec piano, deux titres, trois titres avec flûte traversière et quena. Et puis il y a deux titres avec orchestre à cordes. Il y a 25 cordes qu'on a invité. On a invité l'orchestre La Fosse aux Lions, un orchestre lyonnais. Donc voilà. Du coup, sur 11 titres, ça fait des petites bulles de couleurs complètement différentes. Et c'est pour ça que je dis que c'est un projet abouti, parce que on a vraiment cherché à avoir des environnements, des univers différents, avec évidemment toujours le fil qui nous relie, c'est l'eau, et puis c'est nous, c'est la contrebasse, le basson, le bassoniste et le contrebassiste qui chantent aussi, et puis c'est moi au charango, à la guitare, selon les instruments que je joue.
Eh bien, on va s'écouter un extrait de l'album avec le titre Gâteau de la Fiesta.
En los callejones silbando quenas, golpeando cajas. En la carpa la orquesta suena, la tierra a esperar está enregada. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé. Y ahorita que llegó, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear. Y amor, voy a juntar. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón.
L'allégresse, qu'est-ce qu'il représente?
Le gâteau de la fiesta, c'est l'arrivée du carnaval. Donc dans le nord de l'Argentine, nord-ouest, on fête le carnaval au mois de fin février, début mars. Et donc ben, pour le carnaval, en fait, ce sont les diables qui on déterre le diable chaque année. qui annonce du coup le début des festivités, le début du lâchage en fait. De voilà, c'est un petit peu l'allégorie de se lâcher pendant 2 semaines. C'est la fête. On quitte le travail, on quitte l'amorosité, je sais pas, mais en tout cas le quotidien pour 2 semaines de fête et de folie. Et puis bah à la fin du carnaval, on enterre à nouveau le diable jusqu'à l'année d'après. Et donc bah cette chanson, c'est l'arrivée du duende, c'est l'arrivée du diable qui apporte le carnaval jusque dans la vallée. Parce que donc par exemple à Purmamarca, on a la Bajada de los Diablos. J'ai eu la chance de voir ça, et c'est ça un petit peu qui m'a donné envie d'arranger ce morceau. Donc c'est pas une composition, celle-ci, c'est un traditionnel de la région du Nord-Ouest. Et en fait, il y a toute la foule qui est dans la vallée, et puis on voit un versant de montagne. Et puis depuis tout en haut, on voit poindre des têtes, puis des personnes, et donc qui sont déguisées en diable avec des masques magnifiques. Ils passent souvent des associations, des gens qui passent l'année à décorer, à fabriquer leurs costumes avec plein de perles, de paillettes, de plein de choses. Et donc on voit une tête, deux têtes, trois têtes, 20 têtes poindre depuis le sommet de la montagne. Et puis ils descendent en dansant. Et puis bah après il y a 100, 200 diables qui descendent de la montagne en dansant. Alors ça se fait très lentement, ils descendent 50 cm par 50 cm, donc ça peut durer 1 heure, 2 heures, et puis bah finalement ils finissent par arriver au milieu de la foule, et puis là bon bah il y a une cérémonie, il y a tout ça, puis les diables arrivent, et puis ils embêtent un peu tout le monde, ils sont taquins, et ils viennent titiller un petit peu les gens dans la foule et s'amuser avec eux. Voilà, ils font des farces, et c'est très bon enfant, c'est une très très belle ambiance. Et donc bah la Bajada de los Diablos, voilà, c'est ce qu'on a voulu faire aussi à travers la création du spectacle, puisque donc on symbolise notre spectacle comme un petit carnaval. Donc on arrive en diable et on ouvre le carnaval aussi, et puis ensuite on repart en diable à la fin du spectacle pour clore le carnaval.
Alors une image positive du diable, parce qu'on a toujours cette image, le diable,
ah,
c'est
oui.
Le mal.
Ah non, là c'est pas le mal, c'est la fête. C'est la fête, c'est le lâchage, c'est pas très beau comme terme, le lâchage, mais c'est
le lâcher prise.
Ouais, le lâcher prise, tout le monde se fait plaisir pendant 2 semaines. Alors c'est aussi bien la rigolade, c'est évidemment synonyme aussi de boisson, hein. Et puis donc bah c'est la fête, on danse, voilà. Donc non, le carnaval effectivement n'a pas du tout cette symbolique du mal. Il y a quand même ce côté taquin, il vient un peu quand même pour titiller, pour emmerder un peu les gens quand même. C'est quand même un petit peu, c'est pas un saint quand même, voilà.
Ah, quand même, alors.
Pour utiliser le jargon qui correspond, c'est pas un saint, non, c'est sûr. Il vient pas pour bénir la foule. Il vient pour titiller un petit peu et réveiller les, non pas les démons, mais un petit peu les coquins, quoi. Ouais, il vient réveiller les coquins. Le côté coquin de chacun et le côté un petit peu, bon, et bien il fait lâcher prise, quoi. Donc quand on lâche prise, des fois on peut faire un petit peu n'importe quoi. Le n'importe quoi est un petit peu permis pendant ces 2 semaines.
D'accord. Eh bien, merci Joseph d'avoir partagé avec nous ce moment. On vous retrouve sur toutes les plateformes avec votre album Hilo de l'ensemble, oui, Crio Gendo.
Eh bien, bonne écoute à tous et à toutes.
Merci.
Et grand merci de m'avoir invité.
Résonance, c'est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.
www.radio-g.fr